Bonjour. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver ici à la rue du Moniteur. J'ai vu plusieurs d'entre vous à la convention, à la belle convention d'il y a 15 jours, mais je suis heureux d'être avec vous. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas, et donc je vais me permettre de vous donner un trait d'histoire. Au mois de début juin, premier dimanche de juin de 1988, je rentre par cette porte. Je venais de l'église de Charleroi, j'ai grandi à Charleroi. On venait de déménager à Bruxelles le 28 mai. Et donc le premier dimanche, c'est faisable, on arrive ici avec ma famille à la rue du Moniteur. Pourquoi ? Parce que je ne connaissais que cette église où j'étais, on ne parlait que de la rue du Moniteur. Et à la sortie, un ancien qui était ici à l'époque, Daniel Van Hach, me salue, me pose une question, dit comment ça se fait que vous êtes là, qui êtes-vous ? On ne se connaissait pas, moi je ne l'avais jamais vu, lui ne m'avait jamais vu. Je dis, ben écoutez, je viens de Charleroi et je cherche une église et je suis venu ici. Ah, ne venez pas ici. Ne venez pas ici, allez à Woluwe, ça sera mieux. Alors sur le coup, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ça pour une église ? Mais c'était une prophétie, c'était la parole de Dieu. À l'époque, l'église était remplie. À Woluwe, ils étaient peut-être une trentaine. Et donc, je remercie vraiment le Seigneur de cette interpellation un peu surprenante, mais qui était vraiment une bénédiction pour moi personnellement, parce que j'ai été vraiment béni d'être à l'église de Woluwe. Et vous, pour ceux qui ne le savent pas, l'église de Woluwe a été implantée par votre église hein, dans les années 70. L'église ici était bondée et donc on a dit on va ouvrir une autre église et on a ouvert l'église de Woluwe. Merci Seigneur. Et donc on prie pour que l'église redevienne remplie pour ouvrir d'autres églises aussi à Bruxelles. Dieu n'a pas changé, il est toujours le même. J'ai beaucoup aimé les textes que notre frère Olivier a lus parce qu'ils traversent d'une manière surprenante ce que j'ai préparé pour la prédication de ce matin. Même si le sujet n'est pas du tout le même, beaucoup des réflexions qui ont été faites sont tout à fait pertinentes pour ce que je voudrais partager avec vous. Je vais trouver une photo que je viens de faire. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux selon ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien. C'est ce qu'on vient de chanter. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, c'est le titre de ma prédication. Bien construire la vie, ma vie, le titre de ma prédication. Bien construire ma vie, le chant qu'on a chanté, ce qui m'était cher pour construire ma vie. Alléluia. Alors, on va lire le texte que j'avais choisi. C'est la fin du Sermon sur la montagne, au chapitre 7. Vous connaissez l'histoire du Sermon sur la montagne. Jésus, avec ses disciples, leur parle, leur fait un grand discours, et il commence par leur dire « Heureux !» Heureux ! Et il leur donne toute une série de conseils pour être heureux. Et puis, Matthieu 7. J'ai peut-être dit autre chose, je m'excuse. Et puis, il arrive à la fin de ce chapitre. D'ailleurs, le chapitre 8 commence « Quand Jésus descendit de la montagne ». Voilà, c'était la fin. Alors, nous allons lire à partir du verset 21. Pour bien construire notre vie. Moi, je lis dans la Bible du Semeur. Matthieu 7, 21. Pour entrer dans le royaume des cieux, Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur ». Nous avons annoncé des messages de Dieu en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, et ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, et ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient impressionnées par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas leurs interprètes de la loi. Prions. Seigneur, nous te remercions pour le moment béni que tu nous offres ce matin en étant ensemble, en chantant, en écoutant ta parole, en partageant le repas et maintenant en méditant ta parole. Seigneur, merci pour ce que tu vas nous dire à celui qui parle et à celui qui entend pour que nous puissions bien construire notre vie. Que ton esprit se rende sensible à nos cœurs pour bien construire notre vie. Au nom de Jésus. Amen. En effet, ce matin, ce que je voudrais que nous nous rappelions, c'est comment pouvons-nous construire une vie bien remplie, solide, une vie qui résiste aux tempêtes. La réponse se trouve dans la parole de Dieu et nulle part ailleurs. L'évangile de Matthieu traite en abondance du royaume des cieux. Ou le royaume de Dieu, c'est synonyme. Et tout au long de cet évangile, il revient toujours sur cette question, et aujourd'hui, les gens qui sont là avec Jésus se disent « Mais comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans le royaume des cieux ?» La réponse est évidemment ce que Olivier vient de partager avec nous, la foi et la grâce en Jésus-Christ. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a autre chose qu'il faut absolument faire pour rester dans ce royaume. Jésus, sur ce célèbre sermon, nous offre tout ce qu'il faut savoir pour bien diriger notre vie, pour bien la construire. Non seulement il nous dit comment la construire, mais il nous met en garde. Les versets 21 et 23 nous disent, surtout le 23, « Je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en !» La Bible est duale. Peut-être que si vous vous souvenez de vos cours de mathématiques dans la théorie des ensembles, si deux ensembles ne se touchent pas, ce sont des ensembles duals, tout à fait différents. Quand ça superpose, il y a des éléments communs. La Bible, elle est duale. Allez-vous-en ou venez. Et donc, nous devons faire attention pour ne pas rater ce chemin de la vie éternelle. Que faut-il faire pour ne pas entendre ce jugement irrévocable ? Allez-vous-en. Comment être acceptable ? Comment entrer dans le royaume des cieux ? Ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur », on vient de le lire. Certains ont un tic verbal, répètent toujours « Seigneur, Seigneur » dans leur prière. Ce n'est pas grave, ça embête les autres, mais ce n'est pas grave. Par contre, dire « Seigneur, Seigneur » et puis ne pas être dans le royaume des cieux, La réponse est claire. Allez-vous-en ! Depuis des générations, les enseignants anciens, dans la Bible ou dans la société, donnent des conseils pour bien vivre dans sa vie. Mais notre Seigneur, lui, est beaucoup plus direct pour nous dire comment bien vivre notre vie. Cette parabole, vous la connaissez, n'est-ce pas ? Elle est tellement simple que les enfants la connaissent. On l'explique aux enfants, la maison sur le roc, la maison sur le sable, ben c'est évident, n'est-ce pas ? Et pourtant, cet enseignement banal est profond. Imaginez une maison bâtie sur le roc, une maison bâtie sur le sable. Laquelle va résister à la tempête ? À Bruxelles, depuis quelques années, on voit des trous avec des grandes machines très hautes qui forent des trous pour mettre du béton dedans. Il faut aller très bas pour qu'on puisse construire des bâtiments élevés, des gratte-ciel. C'est moderne. Mais il y a maintenant 130 ans qu'on fait comme ça à Manhattan. On n'a pas entendu 2000 pour construire des tours à Manhattan. On a commencé en 1890. Pourquoi ? Parce que Manhattan, c'est un roc. Tout Manhattan, c'est un roc. Et les ingénieurs de l'époque ont compris qu'on pouvait construire comme on voulait sur ce roc. Bien entendu, on ne va pas parler de Manhattan et de construction, mais de construction de notre vie basée sur le vrai roc. Dans ma Bible, j'ai souligné, chaque fois que ça apparaît, les versets qui concernent l'écologie ou l'environnement. Et bien entendu, ce texte, il est bien vert, au fluo vert, vert foncé, parce que ça concerne l'environnement. Ce passage nous dit que du temps de Jésus, il y avait des inondations. Au mois de septembre, il y a eu des inondations terribles en Thaïlande. Et on a dû massacrer 125 crocodiles qui risquaient de disparaître dans la nature tellement l'eau était montée. Et donc, pour éviter que les crocodiles ne fassent des dégâts, on a dû les tuer. Et puis, il y a quelques jours, le 29 octobre, vous avez entendu parler de la catastrophe de Valence. Le jour même, la présidente de la Commission s'est empressée pour dire « c'est le changement climatique ». Je suis en contact avec un géologue de Valence qui a écrit un article de 12 pages avec tous les détails historiques sur les inondations à Valence. Il y en a eu 3,8 par siècle. Et le dernier, comme tous les autres, était dû à la nature, mais à la bêtise des hommes aussi qui n'ont rien fait pour protéger, qui ont déplacé un fleuve qui passait dans la ville et qui, en 1957, avait débordé, et l'ont déplacé dans les campagnes. Et les campagnes sont devenues la ville, après 60 ans. Du temps de Jésus, il y avait des tempêtes. Il y avait des inondations. Sinon, il ne l'aurait pas dit. Mais surtout, rien de neuf aussi dans la vie des hommes. Rien de neuf dans les intempéries, rien de neuf dans la vie des hommes. On a tous raté notre vie si on ne marche pas avec le Seigneur. Rien de neuf dans la conduite de l'humanité. Ce que Jésus dit dans cette parabole, dans tout le sermon sur la montagne, est valable pour nous aujourd'hui à Bruxelles. Rien de neuf. L'homme est toujours le même. Les deux maisons dont parle Jésus font face aux mêmes conditions extérieures. Une tempête terrible, des inondations, le fleuve qui déborde. Laquelle va résister ? La maison bâtie sur le sable peut être magnifique, mais elle restera solide parce qu'elle est bâtie sans fondation solide. Vous remarquez que les deux maisons dans ce texte sont les mêmes. Hein ? On ne parle pas de différence de maison. On parle simplement de différence de fondation. Quelles sont tes fondations ? Les fondations sont indispensables pour assurer la stabilité dans la durée. Ce texte est limpide. Et pourtant, ce n'est pas si évident que ça. Qu'est-ce que c'est le roc dans cette parabole ?
C'est Jésus.
C'est Jésus ? Indirectement, oui. Ce n'est pas la grâce, ce n'est pas la foi dont on vient de parler pendant la présidence. Ce n'est pas mon comportement, les commandements de Dieu, ma conscience. Ce n'est pas ça le roc. Est-ce que c'est Dieu le roc ? Si nous lisons le psaume 18, « L'Éternel est ma forteresse, mon rocher ». Mon libérateur, il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie, il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Isaïe 26, placez votre confiance toujours en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher de toute éternité. Alors on pourrait penser évidemment que ce texte parle de Dieu. Et pourtant, ce n'est pas l'explication de Jésus. Jésus nous donne la réponse. Construire sur le roc, c'est construire sur sa parole, sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est le roc. La parole de Dieu qu'il faut mettre en pratique. Il ne vous aura pas échappé que contrairement aux autres paraboles où Jésus explique à la fin ce qu'il en est, ici, il fait le contraire, il donne l'explication au début. Au verset 24, il commence par « C'est pourquoi ». Jésus leur dit tout ce qu'il vient de dire tout au long du sermon sur la montagne, c'est l'application de ces paroles. Seuls ceux qui mettent ces paroles en application rentreront dans le royaume des cieux. Il exprime clairement verset 24. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé. Cette parabole concerne l'obéissance. Ou la désobéissance, duale. Dans le premier cas, les paroles de Christ deviennent elles-mêmes le roc, et dans le deuxième cas, c'est du sable mouvant. C'est pourquoi Jésus parle d'un fondement ferme. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que quelqu'un qui a dit Jésus, ce n'est pas tout à fait faux, parce que la parole de Jésus est la vérité. Ce n'est pas seulement connaître la Bible, c'est la vivre, c'est l'appliquer au quotidien. Il faut passer par où, a dit Olivier tout à l'heure, la croix, la résurrection, la demande de pardon. Mais ensuite, il faut appliquer. Vous avez remarqué aussi que les deux hommes de la parabole écoutent. Il n'y a pas que celui sur le roc qui a écouté. L'autre aussi a écouté. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous êtes disposé à écouter. Et je vous en félicite. Mais écouter n'est pas suffisant. Celui qui a construit sur le sable aussi avait écouté. Le culte dominical est un bon endroit pour écouter. Il est essentiel. Ne chipotez pas avec votre agenda. Le dimanche matin, c'est prioritaire. 10h15, ici.
Avant.
C'est notre devoir d'être chrétien pour écouter la parole de Dieu. Parce que toute la semaine, on écoute autre chose. On est bombardé par autre chose, même si on ne veut pas écouter. Donc, l'écoute est la même. C'est le point de départ. Les deux hommes ont entendu. Mais un écoute et met en œuvre l'action, et l'autre ne fait pas ce que Jésus vient de dire. En grec, moi je ne connais rien en grec, mais j'ai étudié ce texte, le terme utilisé signifie « mettre la parole en action ».« Mettre la parole en action ». Dans les deux images, il y a écoute, mais il n'y a pas la même mise en pratique de la parole. Le « c'est pourquoi » du verset 24 nous invite à mettre en pratique ce qu'on vient d'entendre dans le sermon sur la montagne. Je vous invite à relire le sermon sur la montagne ce soir comme complément à ce qu'on est en train de dire. Et vous verrez tout ce que Jésus attend de vous, puisqu'il dit ceci à la fin du sermon. Bien sûr, Jésus n'est pas là pour nous enseigner l'architecture ou l'ingénierie des constructions des bâtiments. C'est de notre vie qu'il parle, c'est de ta vie qu'il parle. La maison dont Jésus parle, c'est la maison de ta vie, de ton foyer. D'ailleurs, le terme grec, c'est oikia. Oikia, ça veut dire maison. Mais c'est le même terme qui est utilisé dans économie. L'économie, c'est comment gérer notre maison. Ça peut être notre maison individuelle, mais ça peut être notre maison Belgique. Ou écologie, c'est aussi notre maison de la nature. Ce texte parle de la maison, mais pas de la maison physique, mais de la maison de notre vie, de notre famille, de notre foyer. Là où il y a un besoin de sécurité. C'est le lieu où on a une relation les uns avec les autres. Comment appliquer cette parole dans nos vies, dans nos familles, dans nos relations? Qui va nous le dire? Qui va nous donner des conseils pour bien vivre? La société, c'est un désastre, la société. Elle n'est que malheur. Ça a toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, les médias nous les montrent plus facilement. Pour bien construire sa vie, il faut commencer par construire sa vie sur le roc et construire des familles unies sur le roc. C'est pour ça que dans nos églises, nous recommandons aux célibataires de ne pas se mettre sous le même joug que quelqu'un qui n'est pas chrétien. C'est un risque énorme de ne pas bâtir sur le roc. La vie sentimentale peut nous tromper. La parole de Dieu ne nous trompe pas. Le verset 27 se termine par « la ruine a été complète ». Si tu chipotes et tu ne construis pas ta vie sur la parole de Dieu, ce qui arrivera, c'est une ruine complète. Jésus ne se trompe pas. Ce n'est pas un petit bobo, une ruine complète. On observe aussi que ceux qui ont construit les maisons sont soumis à la même tempête. C'est la même inondation, c'est la même tempête, c'est même pluie averse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même si tu construis ta maison sur le roc, tu vas subir des tempêtes. Mais la maison va résister. Les tempêtes sont pour tout le monde. Je parle des tempêtes de la vie, bien entendu. On peut partir dans la vie avec des conditions différentes. Certains naissent dans une famille plus aisée. Ils ont moins de soucis que les autres. Pendant un temps. Et puis la tempête arrive quand même. Ça peut être la maladie, le veuvage, la solitude, le célibat, la perte d'emploi, une promotion qui s'échappe, ça peut frapper aussi. Des débordements, il y en a tant qu'on veut dans la vie. Personne n'y échappe. Trouver un pasteur, c'est pas évident. C'est une tempête. Tant d'imprévus. Mais dans les moments de tempête, je crois qu'on l'a chanté tout à l'heure, le Seigneur est là. Et si on a construit sur le roc, la maison tient. La fin de notre texte, et donc du sermon sur la montagne, se termine par l'étonnement des foules. Mais qui est cet homme qui parle ainsi ? Son autorité émanait de sa divinité, bien entendu. Et sa parole était la vérité, touchant directement les âmes qui étaient là pour l'écouter. Cela n'existait pas chez les scribes, qui étaient des intellectuels. Oui, Jésus avait impressionné tout le monde par son enseignement. D'où lui vient cette autorité ? Jean 17 nous dit « Je leur ai donné ta parole ». Et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. L'autorité, c'est la parole de Christ. C'est sur lui que nous devons construire notre vie pour avoir une vie réussie. Ne nous laissons pas façonner par les valeurs du monde. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, dit l'apôtre Paul, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La conclusion donc de notre partie du sermon, c'est que pour bien réussir sa vie, il faut la construire avec l'architecte de notre vie. Celui qui nous donne tous les conseils pour bien vivre. Et donc prendre au sérieux les paroles de Dieu, faire du sermon notre charte pour la vie. C'est ainsi que nous pouvons être heureux, comme commence le sermon. Heureux, si nous mettons en pratique la parole de Dieu. Le sermon sur la montagne, les béatitudes, ou le Notre Père, sont des instructions pour vivre heureux. Sa conclusion est sans appel. C'est pourquoi. Si tu ne l'as pas fait, tu risques d'entendre « c'est pourquoi ». Allez-vous-en, je ne vous ai pas connu. Nous arrivons au dernier point de notre prédication. Il faut revenir au début du texte, au verset 22. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Parce que je risque de leur déclarer, je vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Cette dualité, chers amis, elle est grave. Dans la société, chacun a sa vérité. La parole de Dieu n'est pas comme ça. Elle est duale. Si nous ne voulons pas entendre « allez-vous-en », il faut qu'on soit attentif. La Bible ne nous le dit pas, mais je suppose et vous supposez que l'apôtre Pierre était là, n'est-ce pas ? L'apôtre Pierre, en toute logique, sauf s'il était parti acheter quelque chose pour le pain et les poissons, mais l'apôtre Pierre devait être là, en principe. Écoutez ce qu'il dit dans son épître. J'ai mis un signé qu'un frère m'a donné tout à l'heure. La fin de l'épître du la fin de la deuxième épître de Pierre. Verset 17. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes, vivant sans règles, et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. L'apôtre Paul a entendu le roc. Et maintenant, il dit aux chrétiens, votre position, elle est solide, parce qu'elle est basée sur le roc. Faisons attention, chers amis, on ne rigole pas avec ces questions. Nous voilà prévenus, dit l'apôtre Paul, Pierre. Nous voilà prévenus. Vous avez mal fait de venir ce matin, parce que vous êtes prévenus maintenant. Hein, qu'il ne faut pas chipoter. Ne vous laissez pas entraîner par l'égarement des hommes vivant sans règles et de perdre la position solide que vous avez en Christ. Nous voilà prévenus. Tout à l'heure, on a chanté « Te connaître Jésus ». Pour connaître Jésus, il faut rester attaché à Jésus et vivre comme lui, sur le roc de sa parole. Prions. Quel privilège, Seigneur, nous avons d'avoir ce guide de ta parole pour vivre dans ce monde déchu. Merci, Seigneur, parce que ta parole vivante nous donne les conseils pour rester dans le royaume des cieux. Nous te remercions parce que nous pouvons y entrer par la croix de Jésus-Christ, par le sang qui nous lave de nos péchés. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes d'entrer dans ton royaume. Mais nous te demandons, Seigneur, d'être comme cet homme intelligent, de continuer à construire sur le roc, sur ta parole, pour bien réussir notre vie. Nous voyons alentour de nous des vues déchues et nous voyons des vues privilégiées quand nous marchons avec toi. Aide-nous, Seigneur, à rester attachés à ta parole, à construire constamment sur le roc. Merci, Seigneur, de nous avoir prévenus encore aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.